Alors, simplement pour vous dire, avant de commencer mon intervention, que cela a été dit hier, je remplace Françoise Carreau, en fait, hein, qui a été accidentée. Et vous allez voir que dans le cours de mon intervention, pour les personnes qui connaissent Françoise Carreau, vous allez reconnaître certaines réflexions de ma collègue, parce que nous avons travaillé certains aspects qui concernent les ATSEM, le travail des ATSEM. Alors, je vous ai préparé une bibliographie, qui était disponible à l'entrée, qui est une bibliographie qui est forcément limitée, qui est limitée dans mon orientation sociologique, qui a simplement pour objectif de vous donner les références d'un certain nombre d'auteurs sur lesquels je m'appuie pour présenter mon propos. Alors, donc, effectivement, moi, je suis sociologue. Je travaille beaucoup sur les questions de socialisation, que ce soit la socialisation de l'enfant dans la famille, à l'école, dans le primaire, dans le secondaire, cela a été dit. Et j'interviens aussi, donc, bien sûr, à l'ESPE, où se situe mon poste de maître de conférence, en partie sur les questions de maternelle, avec mon collègue Didier Cricot, qui se bat particulièrement pour que cette formation soit reconnue au sein de notre ESPE. C'est pas toujours évident. Les ATSEM, comment je les ai rencontrés, les ATSEM? Au départ, je suis plutôt partie sur des questions d'autorité, de discipline, des choses pas très très amusantes, et forcément je suis tombée sur les ATSEM, puisque bien sûr c'est un personnage incontournable de l'école maternelle actuellement, et je suis tombée aussi sur certains objets qui sont incontournables également, et certaines préoccupations liées au care, que je vous définirai par la suite. Alors, si on considère la socialisation du jeune enfant, on peut dire que cette socialisation, elle est actuellement dans nos sociétés occidentales, c'est une socialisation plurielle, comme dirait Bernard Lahire, c'est-à-dire que le jeune enfant est bien sûr dans des processus de socialisation avec ses parents, mais également avec la famille élargie, avec l'école, avec les différentes structures d'accueil, différents modes de garde. On pourrait rajouter les autres enfants, les médias, bon, ce sont d'autres lieux de socialisation dont je ne parlerai pas bien sûr aujourd'hui. Et ce qu'il faut noter très rapidement, c'est que l'enfant est confronté très tôt à des principes de socialisation hétérogènes, entre les univers qu'il côtoie, mais aussi à l'intérieur d'un même univers. C'est-à-dire, quand vous regardez la façon dont fonctionnent les parents dans une famille, il est rare que le père et la mère soient absolument d'accord sur toute l'éducation de l'enfant. C'est souvent un sujet de dispute, de discorde, de désaccord. Les enfants... Il y a aussi le ménage, disent les sociologues, qui va engager des disputes, des confrontations. Bon. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez vivre paisiblement avec votre conjoint, ne faites pas d'enfants et ne faites pas le ménage. Bon. Et ne parlez pas de vos belles-mères. Alors, en maternelle, on peut dire d'une certaine manière qu'il y a une socialisation aussi hétérogène entre les différents acteurs que l'enfant va rencontrer. Même s'il y a un programme commun, bien sûr, il y a quand même des professionnels différents, et il y a aussi des variations individuelles dans la manière d'incarner des fonctions professionnelles. Et on sait qu'il existe des styles d'enseignants différents, on sait qu'il existe aussi des styles d'ATSEM différents, et parfois il peut y avoir des réajustements, des différences, des tensions entre les enseignants et les ATSEM, notamment dans la classe. Alors, Bernard Lahire, là-dessus, il est intéressant parce qu'il dit, finalement, ces principes de socialisation hétérogène ne sont pas forcément néfastes pour l'enfant, parce que l'enfant a besoin de se constituer un stock de dispositions suffisamment différentes pour pouvoir s'adapter ensuite dans la société. Donc, il ne faut pas le voir forcément comme une limite, vous voyez, de la socialisation qu'on proposerait aux enfants, mais peut-être une forme de richesse, hein, dans une société où on est amené à s'adapter à diverses situations, à changer de profession notamment, à côtoyer diverses personnes. On a intérêt à avoir l'habitude de côtoyer des personnes différentes et on a intérêt à avoir été socialisé avec différents processus. Alors, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est le travail auprès des jeunes enfants de maternelle. Alors, dans un premier mouvement, là je ne vais rien vous apprendre, on aurait tendance à dire que le jeune enfant, il est pris en charge de deux manières différentes à l'école maternelle. Il y aurait d'un côté les questions d'apprentissage, qui sont clairement identifiées dans les programmes, et ça ce serait le domaine des enseignants, et il y aurait d'un autre côté des interventions plus diffuses, plus quotidiennes, qui relèvent du care, qui relèvent donc des soins qui sont liés à la propreté, au sommeil, à l'habillement, à la sécurité affective, etc. Et ça, ce serait davantage le domaine des ATSEM. Et ces interventions liées au care peuvent être qualifiées de travail invisible, dans le sens où elles ne sont pas valorisées dans l'action éducative, et elles semblent requérir des compétences qui relèvent plus du bon sens pratique, de la ménagère, de la bonne mère de famille, que du travail professionnel. Et bien sûr, ce n'est pas un hasard si les ATSEM sont composés quasi totalement de femmes. Alors, bien sûr, cette distinction que je fais, vous allez voir dans la suite de mon propos qu'elle ne tient pas complètement. Vous allez voir, et vous vous en doutez, que c'est plus compliqué. Alors, le CARE, pour vous donner juste une définition rapide d'une chercheuse que j'utilise, qui est Joanne Tronto. Joanne Tronto définit le CARE comme une sollicitude indispensable à la vie de tout être humain, d'autant plus quand il est vulnérable et dépendant. Et Joanne Tronto nous dit, c'est particulièrement le cas du petit enfant qui n'est pas encore capable de prendre entièrement soin de lui. Ça, c'est une caractéristique du care par rapport au petit enfant, c'est que tout le monde a été concerné par le care dans sa vie. Le petit enfant ne peut pas vivre sans ce care, sans qu'on se soit occupé de lui à un moment donné quand il était petit. Et on peut prendre un exemple de ce travail de care à travers la place qu'a pris le doudou en France, dans les familles et à l'école maternelle, depuis une quinzaine d'années. Et je pense, moi, qu'il n'est pas inutile de réfléchir à ce qu'on en fait dans une classe, dans la mesure où la sécurité affective fait partie, bien sûr, de l'accueil du jeune enfant en maternelle, et que cette sécurité affective conditionne aussi l'entrée dans les apprentissages. Donc je pense que ce n'est pas un moment inutile, et je suis très sensible, moi, à la question des inégalités sociales d'apprentissage, d'autant plus que j'ai eu une formation très bourdieusienne à Lyon 2, donc je pense que c'est vraiment un sujet très très important. Et pour moi, le fait de réfléchir au doudou n'est pas antinomique avec des préoccupations en termes d'inégalité par rapport aux apprentissages. Alors je dis ça parce qu'on a souvent des querelles entre sociologues sur ce point-là, où certains disent, ou sociologues ou psychologues, certains disent, mais enfin, à quoi ça sert de réfléchir à ces bêtises, on n'a vraiment pas le temps, l'urgence, c'est plutôt dans les apprentissages. Alors, je suis d'accord, la question des apprentissages est absolument importante, mais je pense qu'on a vraiment intérêt à expliciter cette question sans y passer des heures non plus, mais cette question et la question du care en général fait partie des gestes professionnels qu'on évacue trop souvent comme si c'était des gestes qui sont évidents. Et on voit avec les étudiants, qu'on voit à l'ESP, nos étudiants sont particulièrement effrayés par un certain nombre de questions liées à l'école maternelle, notamment l'entrée des jeunes enfants à l'école maternelle. Comment on va faire pour gérer ces jeunes enfants qui pleurent, qui essayent de s'enfuir, qui s'accrochent à leur maman? Comment est-ce qu'on va faire pour expliquer aux parents qu'ils doivent quand même au bout d'un moment partir? Donc ce sont des questions qui sont malgré tout très importantes. Et d'ailleurs, si vous remarquez, une chose que j'ai essayé de montrer dans un article qui est paru en 2013, les rituels scolaire était auparavant très tourné vers la sortie de l'école. Hein, regardez le certificat d'études. C'est un moment très très important. Hein. On a beaucoup de littérature à ce sujet. C'était un moment où on allait célébrer un diplôme extrêmement important. Et ce rituel, ce diplôme ont disparu. Et d'une certaine manière, on a eu un déplacement de rituel et il y a une forte polarisation maintenant sur l'entrée en maternelle. Hein, j'ai interrogé des parents qui me disaient que c'était vraiment un moment extrêmement important où on va prendre en photo l'enseignant, on va prendre des vidéos, on va s'habiller, ça a été dit hier, on va s'habiller de manière particulière, on va passer chez le coiffeur. Il y a une pression très très importante sur cette entrée en maternelle. Hein, il y a des enjeux très très forts pour les enfants et pour leur famille. Alors, quand on regarde les pratiques, hein, si on reprend cet exemple du doudou par rapport au care, les pratiques par rapport au doudou en maternelle peuvent paraître en partie paradoxales parce que dans un premier temps, on fait tout pour que l'enfant soit rassuré, hein, ce qui est absolument normal, et cette réassurance peut passer par le doudou, pas forcément, mais elle peut, et rapidement, l'école va s'arranger hein, pour les tout petits et même les petits va s'arranger pour organiser l'évacuation acceptée par les enfants et les parents de cet objet, ce qui est absolument normal aussi, hein, puisque bien évidemment l'enfant ne doit pas être gêné au niveau de son élocution, au niveau de sa préhension, il doit pouvoir se concentrer aussi sur des objets d'apprentissage. Et j'étais très intéressée d'entendre hier ce moment particulier de avant Toussaint et après Toussaint, parce que c'est ce que j'ai remarqué pour le doudou, hein, où il y a au départ une incitation des parents en direction des parents pour qu'ils apportent des objets qui rassurent les enfants. Et puis on les avertit petit à petit, attention, il va y avoir la barrière de la Toussaint. Et puis après, il y aura encore l'autre barrière de Noël où ce sera encore, voilà, le doudou sera encore plus évacué. Hein. Alors, donc, c'est un mouvement paradoxal, c'est un mouvement qui se comprend en même temps par rapport à nos habitudes de scolarisation. Hein. Je ne juge pas du tout ce mouvement-là. Et on voit, à travers l'exemple du doudou, on voit que le care engage des modalités pratiques. Hein, ce n'est pas simplement une vue d'esprit. Le care, c'est pas simplement faire attention de manière intellectuelle, de manière affective à l'enfant. Le care engage des pratiques tout à fait concrètes, avec des questions qui sont tout à fait matérielles. Si on regarde bien, ce doudou, il est caractéristique aussi de notre façon de concevoir la relation à l'enfant qui est très distante finalement dans nos sociétés. Hein, il y a eu une auteure qui s'appelle Hélène Storck, qui est psychologue sociale, que j'aime beaucoup, qui dit on a dans nos sociétés l'habitude de médiatiser nos relations à l'enfant, donc de médiatiser avec des jouets, avec un landau, une poussette, un lit séparé. On est très inquiet hein, dans nos sociétés par rapport à l'idée que l'enfant doive dormir dans un lit séparé, ce qui n'est pas le cas dans toutes les sociétés. Et finalement, quand on donne un doudou à l'enfant, on l'incite à se rassurer lui-même. Vous voyez, on l'incite, hein, on lui dit d'une certaine manière, tu es inquiet, mais d'une certaine manière, débrouille-toi avec ton objet. On a une relation distante à cet enfant. Hein. Alors qu'il y a d'autres sociétés, vous le savez, où les adultes vont rassurer beaucoup plus corporellement les enfants. Ils vont les porter, ils vont leur chanter des chansons, ils vont les caresser, les bercer, etc. Donc, je pense aux sociétés d'Amérique du Sud, d'Afrique, certains pays d'Asie, comme le Japon. Souvent, on a une vision stéréotypée des Japonais, où on pense que ce sont des gens très froids. Avec les jeunes enfants, ils sont très près corporellement. Hein. Et il y a une collègue japonaise à qui j'avais montré des images de maternelle, où on voyait un jeune enfant qui pleurait dans son coin, et une Atsem venait lui apporter un doudou, et elle me disait, mais c'est terrible, elle ne la prend pas dans les, elle ne le prend pas dans les bras, elle va pas le consoler, c'est dur comme relation, de son point de vue culturel, hein. Et, du coup, c'est pour cela que je dis qu'il faut faire très attention dans les classes D'une part parce que le doudou n'est pas du tout un objet obligatoire, et parfois j'entends des personnes qui disent mais c'est bizarre, tel enfant n'a pas de doudou, donc il doit avoir une carence affective quelque part, il y a un problème certainement de relation, voilà voilà, donc faut vraiment faire attention. Il y a des familles pour lesquelles le doudou est une ineptie complète, hein, qui vous disent mais et ça va se salir, ça va nous amener des microbes, si jamais on le perd ça va être la catastrophe. D'une certaine manière ils n'ont pas tort, hein. Et d'autres familles donc vont rassurer l'enfant vraiment en le portant, en le prenant sur les genoux au moment de l'accueil. Hein, et là aussi c'est pareil, faut faire très attention aux interprétations qu'on peut avoir où on entend parfois mais c'est pas possible, ils sont dans une relation fusionnelle, elle a du mal à se séparer de son fils. Bon, il y a des enfants, des parents qui ont l'habitude de se séparer de cette façon-là, hein, en ayant un moment privilégié corporel. J'ai même vu un petit garçon le matin, s'il ne tripotait pas l'oreille de son père, ça n'allait pas. C'était, d'ailleurs, le père disait, mon oreille, c'est le deuxième doudou de mon enfant. Hein. Alors, j'ai pas intérêt à ce qu'elle tombe ou à ce que j'ai un problème avec elle, parce que voilà, s'il ne la tripote pas le matin, c'est pas possible. Bon, donc vous voyez, se dire qu'il y a finalement différentes manières, hein, dont les parents peuvent réagir du point de vue affectif avec leurs enfants. Et à partir du moment où on dit l'école et les parents doivent se rapprocher, toutes ces particularités de la vie privée rentrent dans la classe. Hein, et ça, c'est une difficulté. C'est une difficulté. Parce qu'évidemment, on a des particularités qui sont différentes de ce point de vue-là. Il faut faire très attention au regard normatif qu'on peut avoir sur ces particularités familiales. Alors, quand on regarde les fonctions de l'ATSEM, hein, pour revenir à elle, on peut penser que ce travail de sécurité affective lui revient plus qu'à l'enseignant. Et il est vrai que, d'une certaine manière, elle a davantage de latitude pour l'effectuer concrètement en classe, du fait qu'elle est quand même engagée davantage dans une relation personnelle avec l'enfant. Elle a moins ce souci quand même de la gestion du groupe classe, l'ATSEM, hein. Donc, bien évidemment, elle a des moments individuels plus fréquents avec l'enfant. Elle est plus proche des corps aussi, hein. Elle doit s'assurer de leur bonne hygiène. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, et vous vous en doutez, quand on regarde concrètement dans les classes, eh bien, on s'aperçoit que, bien sûr, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. L'enseignante intervient souvent dans les questions de sécurité affective, et elle intervient, bien sûr, dans le travail de care. L'enseignante d'une manière générale, hein. Et par exemple, bien sûr, elle peut donner son doudou au jeune enfant, le consoler, planifier la façon dont les doudous vont être gérés dans la classe. Est-ce qu'on va mettre des paniers à doudou, des casiers individuels? Est-ce qu'on va interdire la tétine? Comment est-ce qu'on va expliquer aux parents qu'il ne faut plus amener le doudou, etc.? Et de son côté, il est reconnu maintenant, bien sûr, que l'ATSEM a un rôle éducatif important à jouer, hein, au niveau de l'acquisition du langage, au niveau de l'autonomie de l'enfant, au niveau des apprentissages. Elles peuvent animer certains ateliers sous la responsabilité de l'enseignant, et même au niveau des relations avec les parents. Cela a été dit hier, donc là je m'appuie sur les travaux de Véronique Francis. Les parents néo-populaires s'adressent plus facilement à l'ATSEM qu'à l'enseignant. Et ça, c'est très, très intéressant à souligner. Donc, si on s'interroge sur le travail de care effectué par l'ATSEM, il faut le faire en pensant l'articulation de l'ATSEM avec l'enseignant. Hein, le care concerne ces deux catégories d'acteurs dans la classe. Alors, deuxième point, l'articulation ATSEM-enseignant, c'est une question classique de division du travail. Hein. En sociologie du travail, on montre que dès lors qu'on a un travail en commun entre des métiers différents, eh bien, on a des problèmes de frontières qui concernent la division des tâches. Hein. Qui fait quoi et au nom de quelles compétences? Et à l'école maternelle, la division du travail entre ATSEM et enseignant, elle est particulière parce que elle se joue beaucoup entre deux personnes qui partagent le même huis clos de la classe face au même groupe d'enfants sur une durée d'un an, avec des objectifs d'apprentissage qui sont définis par la société. Donc on n'est pas dans le cas d'une prise en charge par une équipe ponctuelle, par exemple les urgences de l'hôpital qui ont été étudiées par Jean Pennef, ou on n'est pas dans le cas d'une prise en charge par une équipe plus grande, plus durable, par exemple dans les crèches comme Sylvie Audena l'a étudié, ou par exemple dans des collèges où on a d'autres intervenants. Alors, les recherches sur le travail en sociologie, là je m'appuie sur le livre de Avril Cartier et Serres, insistent donc sur une articulation entre les dimensions officielles du travail, les prescriptions, les textes officiels qui encadrent les professions, et la réalité de ce travail qui dépend en partie des relations avec les autres catégories de professionnels. Et l'un des thèmes qui revient le plus souvent, c'est la crainte du travail empêché par l'autre. Ça, c'est une crainte qui revient souvent. Et également, deuxième crainte qui revient souvent, c'est la délégation de ce qu'on appelle le sale boulot. Le sale boulot. Alors ça, c'est Huggs qui a utilisé cette expression qui a été très reprise par la suite. Et donc, cela touche également, bien sûr, les relations ATSEM-enseignantes. Alors, malheureusement, en sociologie, on a peu de travaux sur les ATSEM. On en a beaucoup plus sur les enseignants, sur la professionnalité enseignante, les souffrances des enseignants, leurs problèmes de formation. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il faut qu'on continue les travaux. Alors, peut-être que cette moindre visibilité de la profession d'ATSEM, peut se comprendre parce que on les renvoie davantage au care qui est peu explicitable. Peut-être aussi que ça peut renvoyer à une inégalité de statut. Sur le terrain, les enseignants vont parler, par exemple, de leur ATSEM. Les ATSEM ne parlent pas de leur enseignant. Moi, dans les entretiens que j'ai eus, c'était quand même moins présent. Inégalité qui peut se percevoir aussi. Il y a trois raisons aussi qui peuvent se percevoir au niveau des inégalités. Première raison, c'est le fait que l'ATSEM n'a pas la responsabilité principale de la pédagogie et de la sécurité dans la classe. Ça, c'est quand même un point qui est important. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est le fait que les enseignants ont un niveau de formation et des origines sociales plus élevées. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça a des effets quand même sur les relations enseignants-ATSEM. Et puis, troisième raison, les ATSEM, quand on les interroge en entretien, on sent qu'elles souffrent d'un déficit de reconnaissance de leurs compétences. On peut faire le parallèle, toute proportion gardée, avec les nounous que Caroline Ibos a étudiées, les nounous africaines à Paris. Alors j'ai dit toute proportion gardée parce que les ATSEM ont quand même une formation, passent par un CAP petite enfance, etc., sauf celles qui font fonction, mais c'est quand même une profession qui est cadrée par une formation. Mais les nounous que Caroline Ibos étudie à Paris, disent souffrir de ce manque de reconnaissance de leurs compétences, où on leur dit, grosso modo, vous êtes une mère, donc vous savez ce qu'il faut faire, vous avez senti ce qu'il faut réaliser, ça fait partie d'une certaine manière de votre rôle de femme, etc. En même temps, une impression qu'on les renvoie à ce sale boulot dont je vous parlais. Alors, en même temps, il faut relativiser cette inégalité entre enseignants et ATSEM pour quatre raisons. Première raison, ça, Pascal Garnier le montre bien dans un article, les relations professionnelles se sont imprégnées de valeurs démocratiques. Donc on va valoriser quand même la collaboration entre l'enseignant et l'ATSEM. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est cette histoire du sale boulot. Il s'agit quand même d'un sale boulot qu'on peut qualifier de noble. Pourquoi ? Parce que il s'agit de l'entretien des corps des jeunes enfants, et on est dans une société où on valorise beaucoup le monde de l'enfance. Hein, on valorise beaucoup le monde de l'enfance. On n'est pas dans un sale boulot qui concerne des populations stigmatisées. Hein. Donc, des populations qui seraient considérées comme incapables, non autonomes, délinquantes, etc. Donc ça, c'est quand même un deuxième point à considérer. Troisième point, on se rend compte que l'ATSEM n'est pas dépourvu de pouvoir dans les modalités pratiques du travail. Hein. Par exemple, en ne suivant pas exactement les demandes de l'enseignant, ou bien en ne venant pas immédiatement quand l'enseignant a besoin d'elle. Il y a beaucoup d'enseignants qui disent, voilà, là, à ce moment crucial, j'ai besoin d'elle, je l'appelle, je vais la chercher, je n'arrive pas à la trouver. Voilà. Et il y a des ATSEM qui le disent, hein. Il y a certains moments, ça me casse les pieds ou je suis pas d'accord pour faire ceci, cela. Donc, je fais comme si j'étais très occupée ailleurs. Alors ça, c'est une forme de pouvoir indéniable, hein. C'est une forme de pouvoir indéniable. Et il y a des écoles, d'ailleurs aussi des grandes écoles où il y a des sonnettes pour les ATSEM, hein, mais d'un point de vue matériel, cela se comprend hein, aussi, hein, parce que l'ATSEM peut être occupé à un autre endroit. Et certaines ATSEM qui disent, mais voilà, on dit, ça sonnait dans la tisanière, on s'est mis d'accord entre nous pour dire, on n'a rien entendu, on n'était pas là, on était ailleurs, on était occupé, voilà, bon. Et on le sait bien, hein, quand on va voir des jeunes stagiaires, quand on a des retours d'étudiants, il y a des ATSEM qui peuvent avoir un pouvoir énorme hein, dans certaines classes, hein, qui sont connus depuis 30 ans dans l'école, qui ont des contacts serrés avec les parents, qui leur disent de surveiller l'enseignante, voilà. Donc, ça c'est un troisième aspect. Et puis, quatrième aspect, la division du travail est devenue moins nette. Et ça, Françoise Carreau le montre très bien dans une interview hein, qu'elle avait donnée en 2012. Eh bien, les frontières sont devenues beaucoup plus poreuses hein, entre la répartition du travail, entre les fonctions des ATSEM, qui ne s'occupent pas que du CARE, et les fonctions des enseignants, qui ne s'occupent pas que de l'éducatif. Et d'ailleurs, on peut se poser une question, est-ce qu'on peut toujours dissocier aussi clairement ce qui relève de l'éducatif et ce qui relève du CARE ? Hein, bien évidemment, vous avez en tête qu'un professionnel, quel qu'il soit, qui s'occupe de la propreté d'un jeune enfant, ne va pas avoir qu'un geste pour le changer, ce jeune enfant. Bien sûr, il va lui parler. Hein, et donc, on est aussi dans l'éducatif, on est aussi dans l'échange verbal. Alors, le troisième point que je voulais aborder, c'est la faible visibilité du travail de CARE. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que l'enseignant et l'ATSEM pratiquent chacun à leur manière une activité de CARE auprès du jeune enfant. Et cette activité relève de savoir-faire discret, peu explicitable. C'est ce qu'on montre très bien dans d'autres professions, hein, à propos des aides-soignantes, des hôpitaux. Anne-Marie Arboriau a très bien analysé cela. Les aides-soignantes, quand on les interroge, disent... Bon, on ne fait pas grand-chose. Elles ont du mal à expliciter vraiment le travail hein, qu'elles ont, la place qu'elles ont à l'hôpital. Et ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a une forme d'absence de cadrage institutionnel des professions sur ces questions de CARE qui peut contribuer à brouiller les frontières entre les fonctions d'ATSEM et les fonctions d'enseignant. Et la communication des informations semble beaucoup plus simple lorsqu'il s'agit pour l'enseignant d'expliquer des attendus au niveau des apprentissages, des postures. Hein, par exemple, certains enseignants vont faire des fiches pour expliquer l'atelier qui va être mené par l'ATSEM ou en tout cas font un point parfois avec l'ATSEM avant cet atelier. Et il semble plus difficile de s'entendre au niveau des pratiques liées au CARE qui relèvent finalement beaucoup de réajustements entre l'enseignant et l'ATSEM dans des situations qui sont parfois urgentes. Par exemple, comment réagir quand un enfant doit être changé suite à un problème de propreté? Est-ce qu'on dit quelque chose quand un enfant a caché un doudou dans sa poche ou dans son cartable? Hein, c'est la même chose avec les étudiants, vous savez, avec leur portable là. Est-ce que voilà, moi je fais la chasse au portable là dans mes cours. Et des fois, il y en a qui ont leur portable quand même sur la table. Est-ce qu'on dit quelque chose? Non, pas toujours. Bon, comment est-ce qu'on va consoler un enfant qui pleure au moment de l'accueil? Voilà. Et pourtant, ce travail quotidien renvoie à des postures éducatives qui sont absolument essentielles. Qui sont absolument essentielles. Par exemple, on peut se demander quelle place on va accorder à la vie affective des enfants et des parents. Ça, c'est une vraie question, parce que je vous ai dit tout à l'heure, la vie affective rentre dans les classes. Mais voilà, quelle place on accorde à cette vie affective? Il y a un risque d'envahissement quand même affectif dans la classe. Il y a un risque d'ingérence dans le fonctionnement familial. Par exemple, si on est amené à certains moments à faire des remarques sur l'éducation des enfants. Et il y a un risque aussi de la trop grande distanciation. Et je trouve que Anne-Sophie Vorazzi pose très bien cette question à propos des professionnels de la PMI. C'est une question qui est assez classique dans le travail social, mais que finalement, on a peu le temps de se poser pour la maternelle. Autre question qui relève des postures éducatives, quel geste va-t-on s'autoriser dans le travail pratique de consolation affective en maternelle ? Ça, c'est une question très importante. Est-ce qu'on va s'autoriser à porter l'enfant, lui faire un câlin, lui faire un bisou, le garder sur les genoux? Est-ce qu'on va l'appeler d'un surnom affectueux? Et vous voyez que là-dessus, les hommes, par exemple, sont assez embarrassés par rapport à ces questions de contact physique dans une société où on est très sensible au risque de pédophilie. Hein. Donc voilà, est-ce qu'il y a des jeunes hommes par exemple qui disent moi je ne m'autorise pas à accompagner les enfants aux toilettes parce que j'ai trop peur qu'il y ait des risques d'interprétation, des gestes mal compris, etc. Mais même entre les femmes enseignantes, voilà, il y a des convictions différentes sur ces postures pratiques. Par rapport à la réassurance du jeune enfant. Également, autre question que pose là aussi très bien Françoise Carreau, c'est on parle de l'autonomie de l'enfant, mais comment est-ce qu'on rend un enfant autonome? Ça, c'est une grosse question. Est-ce qu'on lui donne des indications pour que, au final, il arrive à être autonome? Est-ce qu'on va le guider dans cet apprentissage de l'autonomie? Ou est-ce qu'on lui dit, écoute, voilà, maintenant, tu vas apprendre tout seul, donc tu te débrouilles tout seul, tu vas essayer de faire tout seul dès le début. Hein, et là, on voit bien que il y a des postures, des convictions qui peuvent être différentes entre l'ATSEM, l'enseignant, mais même entre des enseignants eux-mêmes ou des ATSEM elles-mêmes. Et on se rend compte que finalement, ce que je vous disais, cette articulation relève beaucoup de rectifications qui sont faites en situation et souvent des rectifications qui sont faites à l'initiative de l'enseignant. C'est-à-dire, souvent, l'enseignant va faire des remarques sur ce qui s'est passé par rapport à ces questions de pratique, hein, de care, va faire des remarques à l'ATSEM et un peu moins dans l'autre sens, hein, dans ce que j'ai pu observer dans mes travaux. Et puis, ces questions ne sont pas posées à plat pour une question de temps, et puis parce qu'il s'agit d'un travail peu visible, informel, implicite, qui relève aussi de l'émotion qui est liée à la relation avec les enfants, et où on va puiser en partie dans son expérience d'enfant aussi. Hein, et ça, pas toujours de façon consciente. Et on va parfois oublier la dimension professionnelle que requiert ces compétences. Et la question qu'on peut se poser, cependant, c'est est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est souhaitable d'expliciter vraiment toutes ces dimensions liées au care? Est-ce qu'on ne tue pas une partie du sens contenu dans le care, la personnalisation même de la relation, si on cherche à trop cadrer, vous voyez, dans des protocoles, dans des textes officiels, est-ce qu'il n'y a pas un risque à vouloir cadrer ces dimensions du care? Alors, c'est en partie la question que se pose une chercheuse qui s'appelle Luca Pataroni, dans un livre qui a été édité par Paperman et Logier. Elle se demande si le care est institutionnalisable. Est-ce qu'on peut l'institutionnaliser? Est-ce qu'on ne risque pas finalement de limiter son efficacité professionnelle à vouloir toujours systématiser le care? Donc ça, c'est une première position. Une autre position, c'est celle de Françoise Carreau, qui pense, elle, qu'il est important d'aménager du temps dans les écoles entre tous les professionnels, pour se poser la question comment fait-on, pourquoi, avec quels aménagements pratiques. On se rend compte que le CAIR renvoie beaucoup finalement à des questions d'espace, des questions de temps, des questions d'aménagement de salles aussi. Donc il y a des questions très concrètes, très pratiques. Avec quelle posture, quel rôle possible pour les adultes. Alors Françoise Carreau dit les enseignants gagneraient déjà à y réfléchir entre eux, les ATSEM entre elles également. Après, le croisement des points de vue ATSEM et enseignants est peut-être plus délicat de mon point de vue. Je pense qu'il faut faire attention au fait que les ATSEM ont l'impression de ne pas toujours être écoutés, reconnus, ont l'impression que les idées viennent toujours de la part des enseignants. Et voilà, il y a là sans doute une difficulté, je ne sais pas, je le soumets à votre réflexion, hein, où vous avez beaucoup plus d'écho du terrain que moi. Et troisième option également, c'est peut-être le temps de ménager le temps, vous voyez, pour que les deux professions se connaissent, dans des temps de formation qui ne sont pas forcément locaux, internes à chaque école. Hein, le fait de délocaliser des discussions. Et donc, j'ai eu la chance de participer à une expérience très intéressante qui était menée par Didier Cricot et puis donc les partenaires de la formation à la petite enfance qui sont l'école ESSSE à Lyon. Et donc nous avons été amenés à intervenir un mercredi matin dans la circonscription du 5e arrondissement de Lyon, dans un temps de formation où il y avait des professionnels de la petite enfance qui venaient donc des structures d'accueil de la petite enfance, des ATSEM et des enseignants. Et j'ai trouvé que c'était un temps de formation qui était extrêmement intéressant, ne serait-ce que pour que les professionnels échangent sur leur conception du travail, leurs fonctions, qui ne sont pas forcément connues de part et d'autre, leur formation aussi. Et il y avait une espèce d'échange qui était, à mon avis, moins crispé que s'il avait eu lieu entre des personnes qui travaillent réellement tout le temps ensemble dans la même école. Les enjeux étaient un peu délocalisés. Et il y avait ce souci de se dire, finalement, pour les enseignants, on va réfléchir, et les ATSEM, on va réfléchir et essayer de comprendre à ce qui se passe avant l'entrée en maternelle. Et pour les professionnels de la petite enfance, on va réfléchir et écouter ce qui se passe aussi après, quand on va ensuite laisser partir le jeune enfant en maternelle. Alors j'ai entendu hier que, bien sûr, dans d'autres lieux de France, ce sont des expériences qui ont été menées. Donc c'est pas du tout nouveau, mais je trouve que c'est une idée qui est intéressante. Voilà, j'en ai terminé.